L'ère de la vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. L'ère de la vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abondamment. Amen.
Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous.
C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chères auditrices, recevez tous mes sincères et chaleureuses salutations dans le Tout-Puissant. Magnifique et glorieux nom de notre Seigneur et Rédempteur, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore très ravi de vous savoir toujours nombreux à l'écoute et surtout pour ce merveilleux privilège que le Seigneur nous accorde une fois de plus d'honorer ce rendez-vous. Vous le savez autant que moi que ce n'est pas toujours évident. Parce que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose de toutes choses. Oui, recevez vraiment mes sincères salutations dans le Tout-Puissant nom du Seigneur Jésus. Vous écoutez bel et bien l'heure de la vérité. Je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur, le pasteur Rodrigue Genji. C'est bel et bien l'heure de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce nouveau jour que tu nous as accordé de voir sous le soleil jusqu'à cette heure-ci. Merci particulièrement pour ce moment que tu nous accordes une fois de plus de l'eau passée autour de ta sainte parole. Et ce n'est que tout à fait normal, Seigneur, parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et au commencement était la parole. Seigneur, je te consacre ce moment, je te consacre à tous ces auditeurs afin que tu prennes le total contrôle de toutes choses et que tu bénisses ta sainte parole qui doit être proclamée en esprit et en vérité afin que cette parole, Seigneur, puisse porter du fruit. Seigneur, qu'il n'y ait point des mauvaises interprétations ou des mauvaises compréhensions. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité puisse se manifester puissamment. Merci Seigneur parce que je crois que tu es vivant, je crois que tu es tout puissant et tu es fidèle. Pour agir même au-delà de ce que je peux te demander et que toute la gloire te revienne. Amen. Je disais tantôt, mesdames et messieurs, très chers auditeurs et très chères auditrices, que vous écoutez l'aide de la vérité. L'aide de la vérité, c'est votre émission ou la vérité biblique. Je souligne la vérité biblique est proclamée sans détour, sans compromis et sans concession. Oui, parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, vous écoutez l'heure de la vérité. Comme promis, nous allons continuer notre partage concernant les fausses doctrine. Et comme toujours, je vous invite à avoir un stylo et sur quoi noter. Parce que mon souci, c'est que votre foi soit fondée uniquement sur la parole de Dieu et non sur la sagesse des hommes et non sur les déclarations des hommes. Restez à l'écoute. Mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chers auditrices, vous écoutez l'heure de la vérité. La dernière fois, par la grâce de Dieu, j'ai essayé de vous faire comprendre pourquoi nous sommes arrivés à ces fausses doctrines qui sèment parfois la confusion au milieu des enfants de Dieu, au milieu des chrétiens. Oui, parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses que l'on pratique et que l'on enseigne dans les milieux et dans les systèmes religieux qui n'ont aucun fondement biblique. Et face à tout cela, des multiples questions peuvent être posées. Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Et j'ai essayé, par la grâce de Dieu, la dernière fois, pour ceux qui étaient à l'écoute, de vous faire comprendre ce qui s'est passé pour qu'il y ait des fausses doctrines à l'Église. En fait, je disais que à la mort des derniers apôtres, les hommes se sont réunis. Oui, ils ont fait des conciles, c'est-à-dire des assemblées des évêques. Et durant ces périodes, pendant ces différents conciles, ils ont pris des décisions, ils ont adopté beaucoup de pratiques, en réalité, qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Et beaucoup de ces pratiques ont demeuré jusqu'à ce jour. Donc, ne soyez pas surpris qu'il y ait certaines choses que nous allons voir que les hommes pratiquent dans les milieux religieux, dans les églises, et qui n'ont pas de fondement biblique. Et pourtant, ces choses sont devenues des doctrines et même des traditions dans beaucoup d'églises. En fait, l'origine de toutes ces choses remonte jusqu'au premier siècle, après la mort des derniers apôtres. Par exemple, nous avons vu que durant ces conciles, par exemple, le concile de Nicée en 787, le culte des images fut autorisé. Vous pouvez être surpris d'entrer dans certains temples religieux et de voir des statues et des images. Et pourtant, la Bible est formelle en disant que ne vous faites pas des statues et des représentations des choses qu'il y a dans le ciel, sur la terre, et surtout ne vous prosternez pas devant ces choses. La Bible est formelle. Par exemple, dans Exode 20, deuxième commandement. Et puis, dans Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 14. La Bible est formée là-dessus. Mais et pourtant, ces choses ont été adoptées durant le concile de Nicée dès 787 après Jésus-Christ. Oui, le culte des images fut autorisé. Et ça, c'est pour vous dire que les choses que certaines personnes pratiquent ont vraiment leur origine très très lointaine. Et Par exemple, le dimanche est devenu le jour du Seigneur au concile de Nicée en 325 sous l'empereur Constantin. Alors que les chrétiens de l'église primitive priaient tous les jours, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 46. Et toujours au concile de Nicée, l'hostie qui a remplacé le repas du Seigneur. Et également au concile de Nicée en 325, la soutane du prêtre, oui, va être adoptée. Alors que les apôtres s'habillaient comme tout le monde. Également au concile de Nicée en 325, le jour de Noël a été décrété comme date d'anniversaire du Christ. Alors que la Bible ne précise pas la date exacte de la naissance du Seigneur Jésus. Également le catéchisme et les bâtiments qui vont remplacer l'édifice spirituel de l'église. Oui, nous aurons l'occasion d'y revenir en détail, à savoir que l'église n'a rien à voir avec un bâtiment. Également, le groupe des louanges va être mis en place, la bénédiction nuptiale, l'école du dimanche et beaucoup d'autres choses que, si le Seigneur permet, nous aurons l'occasion d'y entrer en détail. Toutes ces choses ont été adoptées par les hommes et validées. Et malheureusement, ces choses sont pratiquées jusqu'à nos jours. Et parfois, les hommes n'arrivent pas à comprendre que lorsqu'on leur dit qu'il y a certaines choses qui ne sont pas fondées dans la parole de Dieu, les gens sont souvent surpris en se disant, mais comment est-ce que nous pouvons faire telle chose? Comment est-ce que les dénominations, les religions peuvent pratiquer telle chose? Et que certaines personnes disent qu'il n'y a pas dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'essaye de vous ramener dans le passé pour vous faire comprendre ce qui s'était réellement passé, pour qu'il y ait des choses que on pratique et que l'on enseigne et qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Jésus a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc nous sommes là pour amener les gens à pratiquer vraiment ce qui est dans la sainte parole de Dieu. Parce que si nous voulons parler de Dieu et du Seigneur, efforçons-nous de pratiquer ce qui est vraiment écrit dans sa sainte parole. Nous allons parler des serviteurs de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons lire dans Exode chapitre 19. Je veux Exode chapitre 19 à partir du verset 4 au verset 6 où il est écrit. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Nous voyons ici le Seigneur, l'Éternel Dieu, en train de s'adresser à la nation d'Israël après leur sortie de l'Égypte. Dieu leur dit que si le peuple d'Israël garde ses commandements, tout le monde va être un sacrificateur ou un prêtre, donc quelqu'un qui va servir directement Dieu sans passer par une autre personne. Donc nous voyons déjà que le plan de Dieu, dès le départ, c'était que tous les hommes puissent avoir ce merveilleux privilège de le servir, de le prier, de l'adorer, sans passer par un intermédiaire quelconque. Mais malheureusement, nous allons nous rendre compte par la suite que ça ne sera pas le cas. Oui, ça ne sera pas vraiment le cas. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 32, c'est une longue lecture. Je vais juste vous donner les références que vous allez noter et après prendre le temps de lire. Dans Exode 32, lorsque Moïse va aller sur la montagne, et après un certain temps, après son absence, le peuple va se corrompre en faisant un veau d'or qu'ils vont commencer à vénérer et à adorer. Et lorsque Moïse va descendre de la montagne, ayant vu cela, il va être vraiment très fâché. Très très fâché même. D'ailleurs, il va briser les deux tables de la loi qu'il avait entre ses mains. Parce qu'il avait vu le peuple qu'il avait laissé se corrompre en se prosternant devant un veau d'or, une image taillée. Et à partir du verset 25, nous pouvons lire ici, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblaient auprès de lui. Et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. que chacun de vous mette son épée au côté, traverser et parcourir le camp d'une porte à l'autre. En fait, nous voyons ici que lorsque Moïse va voir que le peuple s'est détourné du Dieu vivant, il va lancer un appel. Il va dire, malgré le fait que vous avez péché en vous prosternant devant une image taillée, venez à moi vous tous qui êtes pour l'Éternel. La Bible nous dit que parmi les 12 tribus d'Israël, seule la tribu de Lévi va répondre à cet appel de Moïse. Pas étonnant donc que plus tard, la seule tribu de Lévi fut choisie pour servir directement dans le sanctuaire ou bien dans le temple qui sera construit. Je suis en train de faire un peu de l'histoire pour voir comment les choses ont évolué. Donc voilà, à partir d'ici, nous voyons comment la tribu de Lévi s'est démarquée des autres 11 tribus d'Israël. Et à partir de ce jour, nous pouvons voir que, et s'étant démarqués des autres tribus, plus tard, ils auront ce privilège de servir dans le temple, dans le sanctuaire. Et ça va évoluer ainsi jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ va venir, les choses vont changer. Par exemple, si nous lisons dans Luc chapitre 22 à partir du verset 19, Luc, je vais lire doucement pour nous tous, Luc chapitre 22 à partir du verset 19, nous pouvons lire ceci. Ensuite, il prit du pain, c'est-à-dire Jésus, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, et après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Oui, la dernière Pâque que le Seigneur Jésus-Christ a célébrée avec ses disciples, il va dire qu'il va inaugurer une nouvelle alliance par son sang qui sera versé à la croix. Donc Jésus-Christ, en versant son sang à la croix, a inauguré une nouvelle alliance, a introduit l'humanité sous une nouvelle alliance qui n'avait plus rien à voir avec l'ancienne alliance. Et d'ailleurs, toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 23, cette fois-ci, à partir du verset 44, Luc chapitre 23, à partir du verset 44, il est écrit, il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple, je souligne, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Amen. Dans cette portion de Sainte Écriture, la Bible nous dit que le jour que Jésus a expiré sur la croix, le grand voile qui séparait le temple, ce qui séparait le lieu très saint, pour empêcher que les gens entrent dans le lieu très saint, ce voile s'est déchiré du haut en bas. Parce que le temple était scindé en plusieurs parties. Et la dernière partie était appelée le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, personne ne pouvait avoir accès à ce lieu. Il n'y avait que le souverain sacrificateur. Et même le souverain sacrificateur ne pouvait avoir accès qu'une seule fois par an. Et c'est dans ce lieu très saint que le souverain sacrificateur pouvait rencontrer Dieu personnellement pour recevoir de lui, pour implorer Dieu par rapport au péché de son peuple. Mais la Bible nous dit que ce voile a été déchiré du haut en bas le jour où Jésus a expiré à la croix. C'était significatif. Dieu était en train de lancer un message fort aux hommes pour les faire comprendre que désormais, l'accès direct à Dieu était ouvert à tous les hommes. Les hommes n'avaient plus besoin d'intermédiaires pour atteindre Dieu, comme dans l'Ancien Testament, comme dans l'Ancienne Alliance. Il fallait à tout prix aller voir les Lévites et les sacrificateurs. C'est pour vous dire, très chers auditeurs, très chers auditrices, qu'il y a plus de 2000 ans que le voile a été déchiré. Donc désormais, si vous le voulez, vous aussi, vous pouvez avoir accès directement au trône de Dieu par Jésus-Christ qui a versé son sang pour vous à la croix. Oui, si vous le voulez, à partir de maintenant même, vous pouvez parler à Dieu par Jésus-Christ. Vous pouvez prier et Dieu vous écoute. Pas parce que vous avez mérité, mais parce que Jésus a versé son sang. Et par son sang versé à la croix, il a déchiré le voile qui vous séparait du Dieu très haut. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ce voile demeure toujours dans beaucoup de milieux religieux, dans beaucoup de temples. Jusqu'à ce jour, beaucoup peuvent fréquenter des milieux religieux un an, deux ans, cinq ans, dix ans, même vingt ans, sans connaître que eux aussi, ils peuvent servir directement Dieu, qu'ils peuvent avoir accès au trône de Dieu sans avoir forcément besoin qu'un prêtre ou qu'un pasteur intervienne pour eux. Oui, beaucoup, lorsqu'ils ont un petit problème, ils courent directement voir le prêtre, ils courent directement voir le pasteur. Ce n'est pas une mauvaise chose de le faire, mais sachez que vous aussi, vous pouvez directement parler à Dieu, vous pouvez directement avoir accès au trône de Dieu à cause du voile qui a été déchiré le jour que le Seigneur Jésus-Christ est mort. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Très chers auditeurs, très chères auditrices, je vous invite et je vous encourage à rester tout simplement à l'écoute. Oui, vous écoutez toujours l'heure de la vérité. Très chers auditeurs, très chères auditrices, nous sommes en train de parler des serviteurs de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. Et si nous lisons dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19, nous pouvons lire ceci, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Verset 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Oui, la Bible nous dit que nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, parce que Jésus a versé son sang à la croix pour vous, vous avez une libre entrée au sanctuaire. Donc, désormais, vous pouvez avoir accès au trône de Dieu. Ce sont des vérités que lorsque les systèmes religieux ont commencé à se mettre en place, on a caché ces vérités aux gens. On a fait croire aux gens qu'il n'y avait qu'une catégorie de personnes qui étaient qualifiées pour servir Dieu. Oui, on a fait croire aux gens qui avaient des spécialistes de la Bible. On a caché aux gens que, en croyant au Seigneur Jésus, eux aussi, ils avaient ce merveilleux privilège de servir Dieu comme tout le monde. Oui, le sacerdoce de tous les croyants. Très chers auditeurs, très chères auditrices. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient à l'écoute, je vous disais déjà que à un moment donné, on pouvait même brûler vif quelqu'un que l'on trouvait en possession d'une Bible. Et au commencement, la Bible était en latin seulement. Et puisque à cette époque, beaucoup ne pouvaient ni lire ni écrire le latin, il était impossible à beaucoup d'avoir accès à la parole de Dieu. Et c'était aussi très cher, il n'y avait que les riches et le clergé qui avaient le privilège d'avoir la Bible. Et ceux qui avaient le malheur d'en posséder une étaient brûlés parfois vifs. Tout simplement parce que le diable ne voulait pas que les gens aient la Bible et que les gens découvrent la vérité. C'est pour vous dire que quoi? Si aujourd'hui vous avez le privilège d'avoir la Bible, ouvrez-la et lisez-la. Parce que les gens ont désiré avoir la Bible, mais ils n'ont pas pu l'avoir. Certains ont donné même leur vie tout simplement parce qu'ils avaient la Bible. Parce que certains systèmes religieux ne voulaient pas que les gens aient la Bible pour découvrir la vérité. Donc ce n'est pas normal que vous ayez la Bible chez vous et que vous ne la lisez pas. C'est pour cette raison qu'on peut vous tromper tous les jours. Parce que vous-même, vous n'avez pas le temps de lire la Bible pour découvrir ce qui est à l'intérieur. Le diable parfois utilise certains hommes qui se disent hommes de Dieu pour vous dire que la Bible est très compliquée. Que si vous lisez, vous ne pouvez pas comprendre que c'est une affaire des spécialistes, des théologiens. C'est le mensonge du diable. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ que la Bible, c'est la lettre de Dieu pour vous. C'est une lettre que Dieu vous a envoyée. Et personne ne peut envoyer une lettre et compliquer les paroles qu'il a transmises dans cette lettre. Parce que lorsqu'on écrit une lettre, c'est pour se faire comprendre. Donc si Dieu a permis qu'il y ait la Bible, sa sainte parole, c'est parce qu'il veut que les hommes le comprennent et que les hommes sachent qui il est exactement et ce qu'il a dit exactement. Donc, c'est pour vous encourager, c'est pour vous lancer même un défi. Si vous n'avez pas encore une Bible, faites un effort de vous en procurer une, surtout une bonne, parce qu'il y a des mauvaises Bibles, bien entendu. Ce n'est pas le sujet de notre partage ces jours. En passant, par exemple, la traduction du Monde Nouveau, c'est une mauvaise Bible. Oui, c'était en passant. Faites un effort d'avoir une Bible chez vous, et surtout, ouvrez-la, lisez, et surtout, vérifiez tout ce qu'on vous enseigne, parce que c'est ce que la Bible dit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Voilà ce que nous dit Dieu. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Dans Apocalypse chapitre 1, j'ai déjà eu à lire ces versets, je vais les relire une fois de plus. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 5 au verset 6, il est écrit: et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. La Bible nous dit que Jésus a fait de tous ceux qui croient en lui des prêtres ou des sacrificateurs. Donc si tu as cru au Seigneur Jésus, sache désormais que tu as les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous ceux qui se disent pasteurs et prêtres. Le pasteur n'est pas plus grand que le simple chrétien. Et j'y reviendrai et je vais dire à quoi consiste le ministère pastoral. Moi, je vous parle en tant que pasteur. Et toujours dans Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9 au verset 10, il est écrit: Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9, il est écrit: et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. La Bible dit que Jésus a racheté les gens de tout peuple, de tout race, toute tribu, toute nation. Et il a fait de ces personnes un royaume de sacrificateurs. Des sacrificateurs pour Dieu ou des prêtres. Oui, c'est pour cette raison qu'en Christ, il n'y a plus de Bamileke, de Owondo, de Bassa. Nous sommes un en Christ et en même temps nous sommes tous des prêtres et des sacrificateurs. Nous voyons que la parole de Dieu est vraiment tellement claire. Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, nous pouvons lire ceci. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 13, il est écrit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, qui est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquise pour célébrer sa gloire. La Bible nous dit que lorsque quelqu'un écoute l'évangile et croit à cet évangile, Dieu lui donne immédiatement le Saint-Esprit. C'est pour dire qu'on n'a pas besoin de prier pour un vrai chrétien pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Malheureusement, dans beaucoup de milieux religieux, on prie pour les gens afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. La Bible nous dit que lorsque vous entendez l'évangile de vérité et que vous croyez, Dieu vous scelle directement de son Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit qui fait de vous un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, le verset 9. Alors, si vous avez réellement cru au Seigneur Jésus, sachez que vous avez le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu que vous avez, c'est le véritable enseignant par excellence. Parce que Jésus avait dit, lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité. Et lui, il vous conduira, le Saint-Esprit, dans toute la vérité. Et dans 2 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 21 au verset 22, nous pouvons lire ceci. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 21 au verset 22. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, il faut souligner, et qui nous a oint, qui nous a oint, c'est Dieu. Je relis. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui oint, c'est-à-dire qui donne la capacité aux hommes de pouvoir faire les choses pour Dieu. Malheureusement, lorsque nous voyons les ordinations qui se passent de nos jours, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au temps des apôtres et au temps de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui oint quelqu'un. Malheureusement, beaucoup pour devenir serviteurs de Dieu organisent des très grandes cérémonies. Parfois, on les verse de l'huile dessus et ils pensent que c'est de cette façon qu'ils vont devenir des vrais serviteurs de Dieu ou des grands serviteurs de Dieu. Mais la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui oint. C'est pour dire que quoi? On peut organiser une très grande cérémonie et verser même des tonnes d'huile sur quelqu'un. Mais si cette personne n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, il ne sera jamais un serviteur de Dieu. Il pourra servir et parler de Dieu, faire beaucoup de choses, mais il ne sera véritablement pas un vrai serviteur de Dieu. C'est pour cette raison que nous pouvons remarquer qu'il y a beaucoup dans nos systèmes religieux, dans nos milieux religieux, qui ont des titres religieux, mais qui ne rendent vraiment pas service au peuple, parce qu'ils n'ont jamais été oints par le Saint-Esprit du Dieu vivant. Ils ont été oints par les hommes. Ils ont reçu des diplômes dans les écoles théologiques, mais cela ne qualifie pas quelqu'un pour servir Dieu. Peut-être ça qualifie quelqu'un pour servir dans un système comme fonctionnaire, mais pas pour Dieu. J'y reviendrai tout à l'heure. Très chers auditeurs, très chères auditrices, c'est pour dire que quoi? Il vous suffit seulement de croire au Seigneur Jésus, de recevoir son Saint-Esprit, et le Saint-Esprit que vous avez vous qualifié. C'est ce Saint-Esprit qui vous donne la capacité de servir Dieu selon le don que Dieu va vous accorder au travers de ce Saint-Esprit que vous avez reçu le jour. C'est ce Saint-Esprit qui vous donne la capacité de servir Dieu selon le don que Dieu va vous accorder au travers de ce Saint-Esprit que vous avez reçu le jour que vous avez cru. Une fois de plus, je vous encourage à rester tout simplement à l'écoute. Beaucoup ne savent pas que la théologie ne vient pas de la Bible. Oui, puisque nous sommes en train de parler de serviteurs de Dieu, la théologie. Le mot théologie est issu du grec théologia et signifie littéralement discourir sur la divinité ou le divin. Donc, il s'agit de l'étude rationnelle des réalités relatives au divin. La théologie, contrairement à ce que l'on pourrait penser, remonte à l'Antiquité et n'est donc pas née dans l'Église ou avec l'Église. Et le premier à faire mention de cette science qui étudie Dieu, est le philosophe grec Platon, dans son ouvrage intitulé La République. On ne peut pas étudier Dieu. Dieu se révèle. On n'étudie pas Dieu. Dieu se révèle. Si Dieu ne se révèle pas à vous, vous pouvez l'étudier 100 ans sans le connaître. Dans l'Église primitive, les chrétiens étaient formés par les ministères de la parole mentionnés dans Éphésiens chapitre 4, où j'y reviendrai tout à l'heure. À l'époque, il était impensable de les envoyer se former dans une école théologique, car les enseignants par excellence étaient le Saint-Esprit. En effet, les théologiens, qui sont pour la plupart des chercheurs et des scientifiques, n'ont jamais rencontré personnellement Jésus-Christ. Pire encore, certains nient sa naissance miraculeuse, sa résurrection et surtout son prochain retour. Comment pourrait-il alors prêcher correctement l'évangile qui est centré sur Christ? Oui, parce que l'évangile qu'on trouve dans la parole de Dieu n'est pas sorti dans la tête d'un universitaire. Que nous dit la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 2, le verset 8? Colossiens chapitre 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Nous pouvons remarquer qu'il y a eu 4 étapes dans l'éducation théologique au cours de l'histoire de l'Église. L'épiscopale, la monastique, la scolastique et enfin la pastorale. L'étape épiscopale débuta avec les pères de l'Église. J'ai parlé des pères de l'Église la dernière fois. Beaucoup ont écrit des livres qui restent des bases, des enseignements, des doctrines de beaucoup de systèmes religieux. Mais malheureusement, ces pères de l'Église n'avaient pas tenu compte de toute la parole de Dieu dans leurs écrits. Oui, je disais tantôt que l'étape épiscopale débuta avec les pères de l'Église à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ et fut marquée par la formation des évêques et des prêtres dans des écoles du même nom. Et ils recevaient un enseignement dogmatique sur les divers rituels et les différents liturgies que l'Église devait exécuter. Il y a eu également l'étape monastique chrétienne, oui, la monastique chrétienne qui commença entre le 3e et 4e siècle après Jésus-Christ. Elle était caractérisée par une mode de vie ascétique et mystique, des moines ayant fait vœu de célibat, de pauvreté et d'obéissance au clergé monastique, et qui vivaient reclus dans des monastères. Et dès le 3e siècle, des écoles monastiques furent créées pour y former des missionnaires qui étaient ensuite envoyés dans les territoires encore pas inexplorés. Et ensuite, il y avait la scolastique qui doit beaucoup à la culture de l'université. Vers 1200, un certain nombre d'écoles cathédrales furent créées. Très chers auditeurs, très chères auditrices, enfin, il y a eu la pastorale qui existe encore jusqu'à nos jours. Oui, la pastorale. Si le Seigneur le permet, j'y reviendrai en détail. En fait, c'était juste pour vous faire comprendre que les hommes ont mis des structures en place pour former les spécialistes de la religion. Mais Au temps de Jésus et au temps des apôtres, il n'en était pas ainsi. Lorsque nous lisons par exemple Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7, il est écrit, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Verset 9. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu. Verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres. » Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Verset 14, « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. » Donc la Bible est formelle. Jésus a fait des dons. Et ces dons qu'il a fait aux hommes ou à son corps, ce sont des personnes. Et ces personnes sont des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Donc, on ne devient pas un pasteur ou un prophète ou un évangéliste parce qu'on est parti se former dans une école théologique. On devient pasteur, docteur, évangéliste parce que Jésus vous a choisi et vous a fait don à l'église. Et si Jésus choisit quelqu'un comme apôtre, prophète, docteur, pasteur, autre, il sait pourquoi il a choisi ainsi. Donc cette personne est maintenant un don pour le corps de Christ, pour l'église en général. Nous voyons que les premiers apôtres et l'église primitive ne connaissaient pas l'école théologique. Mais ceux qui avaient reçu directement du Seigneur le don des pasteurs, d'apôtres, des prophètes, d'évangélistes et autres, maintenant, eux, ils étaient chargés de former les chrétiens afin que eux, à leur tour, ils puissent accomplir correctement leur ministère. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et la Bible nous dit clairement que il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc les vrais serviteurs de Dieu travaillent pour l'édification du corps de Christ. Ils ne travaillent pas pour un système religieux, ni pour un mouvement religieux. Et pourtant, ce que nous remarquons de nos jours, c'est que beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu travaillent pour le compte d'une religion. Et parfois, ils sont payés comme des fonctionnaires. Et c'est normal qu'ils défendent les systèmes religieux et les doctrines prônées par les systèmes religieux parce que leur vie dépend de ces systèmes religieux. Donc, un vrai pasteur travaille pour le corps de Christ. Il ne travaille pas pour un groupe d'individus ni pour un système religieux restreint. Il travaille pour le corps de Christ. Et c'est pour vous dire en passant que dans le plan de Dieu, l'église sous forme pastorale telle que nous la connaissons de nos jours n'a pas de place. J'y reviendrai en détail pour vous faire comprendre parce que il faut que tout ce que je vais dire soit vraiment très clair dans votre esprit. En fait, comment est-ce que l'église fonctionnait et comment est-ce que Dieu veut que l'église fonctionne? Lorsqu'une assemblée est établie quelque part, lorsque cette assemblée a les anciens, ce sont ces anciens qui sont chargés de diriger cette assemblée locale. On ne voit pas dans la Bible une assemblée qui est dirigée par un pasteur. Un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, eux, ils travaillent pour le corps de Christ. Ils ne travaillent pas pour une assemblée locale. Ils travaillent pour le corps de Christ. Donc, partout où le Seigneur les envoie, ils se lèvent, ils obéissent et ils partent rendre ministère là où le Seigneur les a envoyés. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous voyons? On implante une assemblée, une église, on établit un pasteur dessus et maintenant le pasteur établit des anciens et il est au-dessus d'eux comme le chef. En fait, ça, ce n'est pas un modèle vraiment biblique. Et pour prouver ce que je suis en train de dire à la lumière des Saintes Écritures, nous allons lire par exemple dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 14. Relevez et après vérifiez tranquillement. C'est très important que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 21. Il est écrit: quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournaient à Lystre, à Icône et à Antioche. Verset 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 23, ce sont les apôtres. Ils désignaient des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandaient au Seigneur en qui ils avaient cru. Nous voyons que les apôtres, lorsqu'ils implantaient les églises, ils désignaient, après un certain temps, les anciens pour diriger cette église. Ils ne désignaient pas un pasteur comme un chef d'entreprise. Une église était toujours dirigée, pas par une personne, mais par plusieurs personnes. Et ces personnes, ce n'étaient pas des pasteurs, c'était des anciens. Parce que des pasteurs ont des ministères itinérants, alors que les anciens ont un ministère local. Ils veillent localement sur le troupeau du Seigneur. Et nous allons rester dans Actes des Apôtres. Nous allons suivre les traces des apôtres. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. À partir du verset 17, il est écrit: cependant des milliers, l'apôtre Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. À partir du verset 25: et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Verset 28: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou ancien pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous voyons, l'apôtre Paul arrivé à Éphèse, il a travaillé très dur, il y a eu les disciples et il y a eu une assemblée. Et lorsqu'il fallait qu'il quitte Éphèse pour aller là où le Seigneur l'a envoyé, il a réuni les différents anciens, pas un pasteur. Et il a dit: j'ai été un exemple, un modèle. Et maintenant, prenez garde sur ce troupeau que le Seigneur vous a établi pour paître. Et c'était aux anciens, pas à un pasteur. Aux anciens. Donc l'apôtre Paul et les apôtres n'établissaient pas un pasteur sur les assemblées, mais des anciens. Et si nous lisons dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, partie du 1er verset au verset 2, nous pouvons lire ceci: Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. L'apôtre Paul est en train d'écrire ici à l'assemblée qui est à Philippe, les Philippiens, les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit dans l'entête de sa lettre? Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, un à tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens de façon générale. En passant, les saints sont les chrétiens, les saints ne sont pas ceux qui sont morts. Parce que parfois, on dit qu'on va canoniser les gens qui sont morts pour qu'ils deviennent des saints. Ça, c'est une doctrine vraiment qui vient des ténèbres. Les saints, ce sont les enfants de Dieu. Tous ceux qui ont cru sincèrement au Seigneur Jésus-Christ sont des saints, c'est-à-dire consacrés et mis à part pour Dieu. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. À tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Les évêques ici, c'est en même temps anciens ou prébistres. Tout ça, c'est la même chose. Nous voyons que les églises étaient dirigées par les anciens et ensuite par les diacres ou les diaconestes et non par un pasteur comme un chef d'entreprise. Et qu'est-ce que Jacques va par exemple dire, l'épître de Jacques? Oui, l'épître de Jacques, chapitre 5, il est écrit au verset 14: quelqu'un parmi vous est-il malade? qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. La Bible nous dit bien, les anciens de l'église parlent au pasteur de l'église. Donc les églises étaient dirigées par les anciens. Je m'efforce de vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment à remettre en cause, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pour m'adresser à tous ceux-là qui sont vraiment les vrais pasteurs, parce que je sais que beaucoup sont là tout simplement parce qu'ils ont manqué du travail ailleurs, et ils ont vu que dans l'église, ils pouvaient trouver de quoi manger. Ils sont partis dans une école théologique pour avoir un diplôme, et après avoir obtenu leur diplôme, ils sont venus s'installer à la tête d'une église pour avoir de quoi manger. Mais je m'adresse maintenant à ceux qui sont vraiment les vrais serviteurs de Dieu, qui ont été appelés vraiment, parce que je sais qu'il y a toujours les vrais partout. Il y a les faux et les vrais. Il y a les faux pasteurs, il y a les vrais pasteurs. Il y a les faux bergers, il y a les vrais bergers aussi. Il ne faut pas généraliser ni confondre tout le monde. Je m'adresse à tous ceux-là qui sont vraiment appelés par le Seigneur comme pasteurs pour le servir. Dieu ne vous a pas appelé pour régner sur une assemblée comme un chef d'entreprise règne. Dieu vous a appelé pour servir le corps de Christ. Vous devez tout simplement obéir à la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit peut décider de vous envoyer n'importe où. Et vous obéissez pour aller rendre ministère là où les saints, c'est-à-dire les chrétiens, ont besoin de votre ministère. Votre ministère ne doit pas se limiter à une assemblée locale. Ça, c'est le travail des anciens. Vous pouvez rendre ministère dans une assemblée locale, mais vous n'allez pas régner sur cette assemblée locale comme un chef d'entreprise règne sur son entreprise. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous pouvons également voir que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes travaillent directement sous la coordination du Seigneur. Donc les pasteurs ne sont pas gérés par les hommes ni affectés par les hommes comme nous le voyons de nos jours. J'y reviendrai en détail. Parce que un pasteur n'est pas en train de travailler dans une entreprise ou dans le gouvernement où on peut l'affecter comme un fonctionnaire. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mesdames et messieurs, très chers, si vous écoutez l'heure de la vérité, oui. Vous connaissez la vérité vous rendra libre, j'y cours après le temps. Nous sommes bientôt à la fin de notre émission de ce jour. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous reviendrons en détail sur tous ces sujets qui sont vraiment très, très intéressants. Mais avant de finir, nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 10 où il est écrit, c'est l'apôtre Pierre qui écrit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Sachez que vous avez reçu un don du Seigneur. Et Dieu veut que vous mettiez ce don au service des autres. Cela revient à dire que dans une assemblée, dans une église, il n'y a pas de spectateurs. Malheureusement, dans les systèmes religieux, on a habitué les gens à venir s'asseoir dimanche sur dimanche, un an, deux ans, cinq ans. Et après même avoir passé 5 ans, 10 ans dans une assemblée, on n'est même pas capable de lire sa Bible. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Lorsque vous arrivez à l'église, vous avez des dons que le Seigneur veut que vous manifestiez. Et que vous mettiez cela au service des autres. Parce que l'église est avant tout un corps un organisme vivant. Ce n'est pas un bâtiment. Et si vous avez accepté le Seigneur Jésus, vous faites partie de son église, vous faites partie de son corps. Et si le Seigneur vous a mis dans son corps, vous êtes un membre important qui a un rôle à jouer. Donc dans la maison de Dieu, il n'y a pas de spécialistes, c'est-à-dire ceux qui montent chaque fois au pupitre pour prêcher, et les autres assis là, contemplant ou bien faisant semblant d'écouter, et restant les mêmes tous les jours, ce n'est pas normal. J'y reviendrai par la grâce de Dieu, et je ne peux que vous encourager à être toujours de plus en plus nombreux à l'écoute, et surtout, de passer le message autour de vous, parce que je crois que si le Seigneur a permis que vous ayez cette mission sur votre radio, c'est parce que le Seigneur veut vous éclairer, veut vous illuminer, parce que la parole de Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et je tiens aussi en passant que beaucoup de mes messages existent. Oui, sur beaucoup de supports, que ce soit sur des brochures, sur des CD, sur des DVD. Et d'ailleurs, je les distribue gratuitement. Donc, si vous avez l'opportunité, rapprochez-vous tout simplement de moi et vous allez recevoir tout cela gratuitement. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce que a recommandé le Seigneur Jésus-Christ. D'ici là, portez-vous vraiment très très bien. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous et que la gloire, les honneurs, la louange et l'adoration reviennent. Celui-là seul qui est digne de le recevoir, celui qui nous a rachetés par son sang, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui qui revient très bientôt, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77, ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros des 00 237, qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Si le Seigneur Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Seigneur Jésus-Christ revient très 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 bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt?